Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction. Après le flash, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous aussi avec vos messages.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
C'est le regard d'un écrivain sur l'actualité que nous vous proposons aujourd'hui, celui de Jean-Marie Laclaftine, dont le dernier roman en date vient de sortir, chez Gallimard bien sûr. Il s'intitule « Et j'ai su que ce trésor était pour moi ». Bonjour Jean-Marie Laclaftine.
Bonjour.
Il est rare que j'invite des romanciers pour commenter l'actualité, mais je sais qu'avec vous, il y aura un vrai regard sur cette actualité. Mais vous êtes d'abord, je le disais, écrivain, éditeur chez Gallimard depuis un petit moment maintenant.
Écrivain depuis 1980, je crois, et éditeur depuis 89.
Alors je vous lis depuis le début, quasiment, depuis le début des années 80. Non, c'est un plaisir et ça me permet de mettre en relief le tout dernier roman en date. Donc écrivain et éditeur, donc vous êtes vraiment un homme du livre.
Oui.
Il faut le préciser.
Je suis né dans le livre d'une certaine façon. C'est-à-dire que je suis né comme écrivain parce que j'avais été un lecteur très précoce et très passionné, comme tous les écrivains. Je pense on ne peut pas devenir écrivain si on n'a pas été un grand lecteur. Et puis ensuite, le hasard de la vie a fait que je suis devenu éditeur parce que Antoine Gallimard, quand il est arrivé pour prendre la succession de son père Claude Gallimard, m'a demandé de faire partie du comité de lecture qu'il remettait en marche. Et je me suis retrouvé dans cette aventure extraordinaire qui est celle de l'édition, qui m'a beaucoup captivé, qui m'accapare énormément. Mais
parce qu'il faut préciser, Jean-Marie, que Gallimard est une vraie maison d'édition. Je veux dire par là que les manuscrits envoyés, et Dieu sait s'ils sont nombreux, sont lus, ou en tout cas on y porte attention, et que vous les lisez en tous les cas, et que vous suivez les auteurs.
Oui, bien sûr. Il y a un fantasme qui circule, qui voudrait que les éditeurs ne lisent pas les manuscrits, qu'ils les confient aux stagiaires, ou qu'ils les mettent directement à la corbeille. Mais c'est absurde, parce que la base de notre métier, c'est ça, c'est la lecture des manuscrits qui arrivent par la poste, qui ne sont recommandés par personne et qui sont écrits par des auteurs totalement inconnus. C'est ça la base. Et on est bien obligé de fouiller dans cette matière énorme qui nous arrive quotidiennement pour trouver les
pépites.
Les pépites.
Alors grâce à vous et avec vous, Jean-Marie Laclaftine, on va faire une émission entre actualité et littérature. Il faut aussi que je précise, et c'est pour ça que je voulais vous présenter comme homme du livre, parce que votre dernier roman en date est un véritable hymne au roman, justement.
Oui, j'avais envie vraiment, parce que je constate à chaque rentrée littéraire que la presse est totalement encombré par des papiers sur des livres du réel, qui sont en fait des transpositions journalistiques d'expériences vécues. Il faut que ça soit des histoires vraies, vérifiées, le plus souvent crues ou sordides, et qu'on soit vraiment dans le réel, quoi, dans la grisaille du réel, enfin ce qu'on nous présente comme le réel. Et moi, je n'ai rien contre ce type de livre, hein, les livres autobiographiques. Par exemple, il y a eu de très grands chefs-d'œuvre dans toute l'histoire de la littérature, hein, que ce soit Rousseau, que ce soit Céline même, enfin, si on veut le qualifier comme ça. Mais qu'on réduise la littérature à cette seule tendance, c'est une sorte de renoncement effrayant, parce que pour moi, la littérature, c'est quand même Cervantes, c'est Homère, c'est Rabelais, c'est Céline aussi, bien sûr, mais c'est l'invention des histoires, de la fiction, le bonheur de la fiction. Et j'avais envie, dans un roman, de célébrer ce grand bonheur de la fiction que j'ai vécu en tant que lecteur et que j'essaie de transmettre en tant qu'écrivain.
Alors, nous allons bien sûr en reparler de ce roman, et j'ai su que ce trésor était pour moi, mais je suis obligé de vous ramener au réel, parce que c'est l'actualité, Jean-Marie. Et on va écouter quelques voix dans l'actualité de la semaine pour commencer. Tenez par exemple celle du Premier ministre Manuel Valls au Salon de l'Agriculture à Paris, donc, où c'est une tradition, vous le savez, défile toute la classe politique.
Vous êtes des pantins de l'Europe.
Ah oui, mais ça c'est facile.
Ah oui, c'est facile de venir pavaner comme ça.
Si on vient pas, on est les trouillards. Si on vient, on vient se pavaner. Non, c'est vous qui nous enfermez là dans ce truc-là. Et ça fait avancer le schmilblick, non. Donc vous avez le Premier ministre en face de vous, donc
vous
discutez.
Sur les résultats, il n'y a pas de résultats.
Mais c'est quoi les résultats pour vous,
hein? Le lait, il est payé à 0 euros.
Et vous pensez que c'est en claquant ces droits que j'allais le faire?
C'est votre boulot.
C'est mon boulot de faire monter, de baisser les prix.
C'est le boulot de...
Non.
changer l'Europe, petit. C'est pas l'Europe. Il va pas changer l'Europe, petit. Petit Zizi, là.
Alors ça, ce sont des sifflets adressés au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, lors de sa visite aussi au Salon de l'Agriculture. Dure épreuve pour lui, notamment. Alors, autre voix, Jean-Marie, elles nous sont venues de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois. Ce sont celles des deux vainqueurs de ce que l'on appelle le Super Tuesday, c'est-à-dire des élections primaires dans 12 États de la Fédération américaine. D'abord, côté démocrate, Hillary Clinton semble se détacher. Écoutons-la.
Au lieu de construire des murs, nous allons abattre les barrières. Et mettre en place des échelles d'opportunités et de chances pour que chaque Américain puisse réaliser son potentiel. Car à ce moment-là, et seulement à ce prix, l'Amérique réalisera son potentiel. Il est clair ce soir que les enjeux de cette élection n'ont jamais été aussi importants. Et la rhétorique que nous entendons dans l'autre camp n'a jamais atteint un niveau aussi bas. Essayer de diviser l'Amérique entre eux et nous est une erreur et nous ne laisserons pas ces idées gagner.
Alors côté républicain, il n'y a plus de suspense apparemment, c'est Donald Trump qui représentera sans doute ce parti à l'élection présidentielle en novembre prochain, on l'écoute aussi.
J'ai vu le discours d'Hillary, elle parle des salaires qui sont trop bas et rien ne va. Mais elle est au pouvoir depuis si longtemps. Si elle ne réussit pas jusque-là, elle ne va pas réussir à changer les choses dans les 4 ans qui viennent. Ce sera de mal en pis. Écoutez, je suis un unificateur. Je sais, c'est un peu difficile à croire. Mais croyez-moi, je suis un unificateur. Dès que cette primaire sera terminée, je veux m'attaquer à une seule personne, Hillary Clinton. Si toutefois elle est autorisée à être candidate, car on est toujours dans le flou, je ne sais pas si elle pourra rester dans la course. Et je pense que ce sera facile, regardez les sondages. Je bats Hillary Clinton dans plein de sondages. Marco Rubio ne pourra pas la battre, et pour Cruz, ce sera très difficile. Notre parti s'agrandit. Regardez les États où j'ai gagner les primaires. Ce n'est pas arrivé au Parti républicain depuis des décennies. Donc je pense que nous serons plus inclusifs, nous serons un plus grand parti et nous allons gagner en novembre.
Une semaine d'actualité.
Alors, Jean-Marie Laclaftine, l'éditeur, le romancier, mais aussi le grand lecteur de journaux, je le sais. La visite de Manuel Valls et les sifflets des agriculteurs adressés à Stéphane Le Foll vous ont intéressé, semble-t-il. Ça vous a fait rire.
Oh, ça m'a fait sourire, oui, parce que c'est une sorte de classique quand même. Les agriculteurs sont... c'est une catégorie sociale qui est très malmenée, très angoissée, on peut le comprendre, parce qu'ils sont dans une situation souvent difficile. En même temps, ce qui me surprend toujours, c'est que... je vais pas me faire des copains, là, mais surtout que je vis à la campagne, mais on accepte tous deux. C'est-à-dire que d'aucune autre catégorie, on accepterait des comportements pareil, les insultes au Premier ministre ou au chef de l'État, les pneus brûlés, les dégradations incroyables.
Le purin déversé sur les routes.
À chaque fois, ça ne donne lieu à aucune sanction, rien. C'est très surprenant quand même. Alors, est-ce que c'est un sentiment de culpabilité collectif que nous avons vis-à-vis de ces gens que nous chargeons d'accomplir des besognes, c'est-à-dire de pollution, de destruction de la nature, etc., et que dont eux-mêmes souffrent et parfois dans leur chair, c'est peut-être ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même assez mystérieux. Quant à Monsieur Valls, je trouve un peu normal qu'il se fasse houspiller, parce que quand même, il y va fort.
On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je suis sûr qu'aux États-Unis, Donald Trump vous intéresse, parce que c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un phénomène en tout cas.
Ah oui, il pourrait m'intéresser en tant que personnage de roman, mais comme c'est peut-être le futur président des États-Unis, c'est beaucoup plus inquiétant. Et les les États-Unis nous ont quand même donné l'expérience de quelques présidents catastrophiques. Hein. Quand même, George Bush, quand il a envahi l'Irak, ça a eu des conséquences énormes dont nous sommes en train de payer le prix toujours. Hein. Donc, on peut regarder ça comme quelque chose d'un peu folklorique ou amusant, un personnage comme celui-là, mais ça ne m'amuse pas du tout.
Alors, j'ajoute qu'il y a eu un débat véritablement affligeant, sans contenu, entre les candidats républicains jeudi à la télévision américaine, qui ne donne pas une image très reluisante de la vie politique outre-Atlantique.
Non, en même temps, on ne sait pas quel est le pouvoir réel des présidents quand on voit que Obama, en 8 ans, n'a même pas été capable de fermer Guantanamo, qui était une de ses promesses essentielles. C'est quand même incroyable. Donc on voit bien que... Le pouvoir est aussi ailleurs.
Alors avant de continuer notre voyage, Jean-Marie Laclaftine, on va retourner vers la fiction, vers votre roman. Il faut raconter ce roman, j'en suis incapable parce que ce sont des histoires qui sont entremêlées, mais c'est une histoire d'amour. Ça commence par le récit d'un homme qui s'adresse à la femme qu'il aime et qui est, on l'imagine, dans le coma à l'hôpital.
Voilà. Donc il est dans une chambre d'hôpital où il vient toutes les nuits lui raconter des histoires grâce à la complicité d'une infirmière. Oui. Il ne vient pas le jour parce que ce sont des amants clandestins. Oui. Donc ils avaient une histoire d'amour extrêmement forte mais cachée. Donc il vient la nuit lui raconter avec la certitude que les récits qu'il lui fait vont la ramener vers la vie, un peu comme Scheherazade, hein, puisque Scheherazade c'est ça, c'est l'histoire du récit, de la puissance du récit qui est capable de repousser la mort de jour en jour, de nuit en nuit, et puis à la fin des mille et une nuits, c'est quand même l'amour qui est vainqueur. Voilà, et ce modèle, je l'ai repris dans ce roman-là, c'est une histoire qui se multiplie en un bouquet d'histoires, des histoires qui fleurissent un peu dans tous les sens, qui s'entrecroisent, mais qui en fait ont toutes des points en commun.
Parce que la particularité de ces deux amants, c'est que quand elle était vivante, on l'imagine toujours vivante, je ne raconte pas la fin, ces deux amants, avant de se voir, se racontaient toujours, avaient l'habitude de se raconter toujours des histoires.
Oui, parce que
l'histoire est dans ce roman, en tout cas, au cœur de tout.
Absolument. Ils étaient écrivains tous les deux. Et leur histoire d'amour, elle est basée sur l'invention de récits, l'invention d'histoires. Ils ne pouvaient pas se voir sans... C'était un pacte entre eux. Avant de se voir, ils écrivaient des histoires et ils se racontaient leur histoire pendant leur rencontre clandestine. Et ça commençait toujours comme ça. Et donc, le roman, c'est à la fois le récit de leur histoire d'amour, assez mystérieuse, mais très intense, et puis les histoires qu'ils se racontaient et que lui continue à inventer pour elle, pour essayer de la tirer vers la vie.
Dont on va reparler, évidemment. Jean-Marie, reprenons notre voyage dans 7 jours d'actualité internationale avec d'abord les résultats des élections législatives, entre autres en Iran, Téhéran mardi, Tiavash Ghazi.
Aucune majorité claire n'a été dégagée lors des législatives de vendredi. Certes, la coalition des réformateurs et modérés a triplé le nombre de ses sièges qui passe de 30 à environ 95, mais les conservateurs résistent puisqu'ils ont obtenu un peu plus de 105 sièges. En revanche, la plupart des ultra-conservateurs, notamment ceux qui avaient critiqué l'accord nucléaire, ont été éliminés et ne seront plus présents au Parlement. Le second tour qui sera organisé pour les 69 sièges en ballotage sera déterminant. En effet, si l'un des deux camps obtient 30 ou 40 sièges supplémentaires, il pourra alors dominer le Parlement. Le président Rouhani a salué les élections de vendredi en affirmant qu'il s'agissait d'un pas en avant vers le développement. Il a répété que les Iraniens, par leur vote lors de la présidentielle de 2013, ont montré qu'ils ne voulaient pas la confrontation, mais l'entente avec le monde. Si les amis politiques du président Rouhani ont remporté un petit succès en multipliant par 3 le nombre de leurs sièges, en revanche, ils ne disposeront pas de la majorité comme le souhaitait le président. Hassan Rouhani espérait en effet une majorité au Parlement pour appliquer plus facilement sa politique d'ouverture au niveau intérieur et international.
Parlons maintenant des réfugiés en Europe. Depuis le début de l'année, ils sont un peu plus de 130 000 à être entrés sur le vieux continent, avec une situation critique, on le sait, en Grèce, à la frontière de ce pays, avec la Macédoine en particulier. Reportage par exemple mercredi de notre correspondante Charlotte Stinard.
Une longue file d'attente longe l'entrée du camp où on distribue des bouteilles d'eau. Naïma et Rema sont deux Syriennes d'Alep. Elles dorment dans des grandes tentes chauffées, mais pour elles, le plus dur, c'est de se nourrir.
On achète la nourriture parce que la file d'attente est très longue. 2 heures, 3 heures
pour un petit sandwich.
Pas de douche chaude, les gens vivent entassés. Le fils de Naïma résume le sentiment général.
La vie ici est dégoûtante.
D'autres ont moins de chance. Alors que la nuit tombe, ils dormiront dehors, comme Kamal, un Kurde irakien. Assis autour d'un feu, il raconte qu'il a quitté la ville de Kirkuk avec sa femme et sa fille. Ils entament leur 5e nuit dans une toute petite tente.
Ma femme est malade, elle s'est allongée parce qu'ici il fait froid et les gens sont malades très facilement. Les gens attrapent fièvre, toux, maux de gorge, il n'y a pas beaucoup de nourriture donc ils ont faim. Or les gens qui ont faim attrapent vite froid.
L'armée construit actuellement des camps mieux équipés dans la région, mais beaucoup de réfugiés préfèrent attendre à la frontière de peur d'être coincés en Grèce.
Et sachez que l'Union européenne a débloqué 700 millions d'euros sur 3 ans pour aider les pays d'accueil et notamment justement la Grèce.
Sept jours dans le monde.
Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Laclaftine. Nous faisons des allers-retours entre la fiction, le roman et le réel. Jean-Marie, j'ajoute dans l'actualité internationale le renforcement des sanctions contre la Corée du Nord, voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, donc avec le soutien de la Chine. Cette histoire des réfugiés est sur le plan humain extrêmement touchante, évidemment.
C'est touchant, c'est aussi tout à fait révoltant, enfin, ce qui est en train de se passer. L'inaction, l'impuissance avérée de l'Europe face à cette crise qui, dans le fond, vous disiez 130 000. Vous
savez, c'est rien que depuis le début de l'année.
Mais qu'est-ce que c'est 130 000 par rapport à la population européenne? On est tout à fait capable d'accueillir autant de gens. C'est pas, on nous parle toujours d'un appel d'air possible, mais il y a une absence totale de générosité et une absence de réalisme aussi. Il y a beaucoup de mensonges et d'hypocrisie de la part des gouvernants de tous les pays d'Europe. Quand on voit, franchement, les discours qui étaient ceux de Hollande avant son élection concernant Calais, concernant l'attitude de Sarkozy qui a vraiment été lamentable à Calais, mais quand, eux, ils font exactement la même chose. Et toute honte bue, il y a quelque chose de tout à fait méprisable, je trouve, dans l'attitude des dirigeants européens, sauf, et c'est quand même un comble, sauf Angela Merkel, qui est à peu près la seule à avoir une attitude humaine et logique par rapport à ce qui est en train de se passer. L'Europe est en train de mourir de ça, c'est absolument pitoyable.
À propos de l'Europe, et là on revient pour conclure en quelques secondes à votre roman, que vient faire ce Serbe de Bosnie en plein parmi les personnages de ce roman foisonnant et extrêmement, extrêmement touchant?
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce roman, et donc l'une des histoires...
Donc on imagine que le roman se passe en France, et puis tout d'un coup, on voit un chef serbe bosniaque recherché en plus, il y a une menace d'attentat sur lui en plus.
Oui, parce qu'il se trouve que j'ai des liens particuliers avec la Bosnie, j'y suis allé pendant 20 ans très régulièrement. Je parlais de l'Europe tout à l'heure et de la fausse impuissance de l'Europe par rapport aux réfugiés. Ça m'évoque évidemment très fortement l'attitude de l'Europe par rapport au siège de Sarajevo,
où
nous avons laissé mourir des gens dans des conditions absolument scandaleuses. Et donc je suis lié avec ce pays parce que je fais partie d'une association, disons franco-bosniaque, et donc ça m'a inspiré cette histoire-là. Voilà, ça n'a rien d'autobiographique, mais c'est, j'avais envie de faire entrer le réel comme ça par ces petites portes inattendues dans mes fictions.
Donc vous voyez, il y a quand même un peu de réel.
Ah oui, toujours. Oui. Non, mais le réel, il est là dans la littérature. Dans le fond, elle parle du réel, mais elle en parle à sa façon, en le réinventant, et elle permet de le comprendre mieux parce que quand on raconte une histoire, on voit le monde différemment.
C'est vrai. Jean-Marie Laclaftine, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde réel de ces dernières heures et on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. A tout de suite.
A tout de suite.
Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction et notre invité, l'écrivain Jean-Marie Laclaftine.
Une semaine d'actualité.
Évidemment, nous n'allons pas tarder à nous rendre en Afrique avec des étapes en Centrafrique, au Sénégal ou au Mali, par exemple. Mais d'abord, un coup d'œil sur l'essentiel de l'actualité en France, avec, pour commencer, le sujet qui fâche la gauche, mais pas seulement d'ailleurs, le projet de réforme du Code du travail. Il ne sera présenté que dans 15 jours environ, le temps pour le gouvernement de consulter les syndicats et de discuter aussi. Agnieszka Kumor.
La discussion est ouverte. Face à la levée de boucliers des syndicats et à la grogne exprimée sur Internet, le gouvernement est prêt à céder, mais pas sur tout. L'élargissement du licenciement économique et le plafonnement des indemnités prud'homales, deux points parmi les plus contestés, restent dans le texte. L'exécutif veut bien toutefois discuter des seuils de déclenchement de ces mesures. Des modifications pourront alors être rapportées au texte si un point d'accord est trouvé d'ici le 24 mars. Le projet pourrait aussi être amendé sur d'autres points comme le compte personnel d'activité ou le forfait jour. Tout cela sans toucher au cœur du texte, c'est-à-dire au renforcement des accords d'entreprise. Les syndicats réformistes joueront probablement le jeu, les autres restent mobilisés. Les premiers rassemblements sont prévus dès le 9 mars, la date du 31 mars circule aussi, mais l'objectif de Matignon reste inchangé. Manuel Valls vise l'adoption de la nouvelle loi sur le travail d'ici l'été.
Jean-Marie Laclaftine, reparlons maintenant des réfugiés, mais en France, cette fois à Calais, considéré, on le sait, depuis 2003 comme la frontière avec la Grande-Bretagne. Samedi dernier, nous vous avons fait écouter les propos de la préfète du Pas-de-Calais qui parlait d'évacuation en douceur de ces réfugiés de la jungle dans des centres d'accueil et d'orientation, les CAO. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme cela au début de la semaine, mais les choses se sont ensuite calmées, semble-t-il. Un reportage en tout cas mercredi de Guilhem Delteil.
Le rendez-vous est donné à l'extérieur de la jungle. À côté du bus, une trentaine de migrants attendent avec le peu d'affaires qu'ils ont décidé, comme Ahmad, venu d'Irak, à quitter Calais.
Ça va vous harter.
C'est à cause de la boue, du froid. On n'a pas à manger, on est livré à nous-mêmes. Il n'y a pas de service.
Reste à connaître la destination. Le lieu précis se détermine parfois à la montée dans le bus.
Six people.
La Roche-sur-Yon.
Une improvisation que critique Catherine, une habitante de la région venue aider les migrants de la jungle.
Le problème, c'est qu'on leur dit une ville, tu vois, puis arrivé au bus, ben, on leur dit, ben non, c'est pas dans cette ville-là que vous allez aller, c'est dans une autre ville. C'est déjà dur pour eux, quitter les copains et tout ce qui s'ensuit. Et résultat, c'est parce qu'on leur a dit, on leur ment.
Ce mercredi, 32 personnes sont parties, c'est peu au regard des milliers d'habitants de la jungle. Mais pas question pour la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bussiot, d'y voir juste une goutte d'eau dans l'océan. L'effort paye dans la durée, dit-elle.
Dans pas loin de 3000 personnes qui sont parties en CAO, c'est une très grosse goutte d'eau et c'est bien. Et
depuis le mois d'octobre?
Depuis qu'on a commencé, ou à la fin octobre, à peu près 3000 personnes et ça s'intensifie.
Intensification car les départs sont désormais quotidiens. Il n'y en avait avant que deux par semaine.
Sept jours en France.
Et voici un autre sujet qui devrait vous intéresser, Jean-Marie, l'élection d'Andrei Makine, grand écrivain à l'Académie française, jeudi. Catherine Fruchon-Toussaint.
Andrei Makine est sans conteste l'écrivain russe le plus amoureux de la France. Orphelin très jeune, c'est sa grand-mère en Sibérie qui lui transmet le goût de la littérature française. Dès lors, il garde ce lien privilégié avec la langue de Molière, qu'il étudie à Moscou et consacre sa thèse de doctorat au roman français contemporain. Devenu professeur de philologie, il obtient en 1987 un poste d'assistant dans un lycée parisien. Il a tout juste 30 ans et vit dans une chambre de Bonne. Réfugié politique, dans la précarité, il se lance dans l'écriture de 3 romans rédigés en français, mais qu'il traduit en russe pour être publié comme auteur étranger, un comble. 1995 est pourtant l'année de la reconnaissance car son livre, Le Testament français, est couronné par 2 très grands prix littéraires, le Goncourt et le Médicis, c'est exceptionnel. Depuis, Andrei Makine n'a cessé d'écrire dans cette langue choisie au détriment de la langue maternelle pour échapper, dit-il, aux ombres trop intimes de Tchekhov ou Tolstoï. Aujourd'hui, c'est la France qui lui rend son amour en l'accueillant à bras ouverts dans son institution la plus prestigieuse, l'Académie française.
Catherine Fruchon-Toussaint qui vous propose chaque semaine, vous le savez, son excellent magazine littéraire, Littérature sans frontières. On va reparler des réfugiés. Vous avez vu comme le reportage de Guilhem Deltay ressemblait beaucoup au reportage qu'on écoutait tout à l'heure en Grèce.
C'est oui,
toujours
bien sûr,
cette humanité qui souffre en fait.
Qui souffre aux portes de l'Europe, aux franges de l'Europe, et dans une cacophonie absolument incroyable, un concert de renoncement, de déclarations contradictoires et totalement hypocrites, de reniement, parce que actuellement ce qu'on voit de la part du gouvernement français, par exemple, c'est vraiment un reniement absolu et catégorique et continuel de tous les engagements et de toutes les valeurs ou les missions qui s'étaient données. Donc il y a une déconsidération générale du politique qui est effrayante, mais qui en même temps laisse émerger un peu partout, en Grèce, en Espagne, des mouvements qui, à la base, commencent à s'organiser de façon spontanée au départ, mais qui arrivent à des résultats. Moi, je pense que dans les années qui viennent, on a une telle déconsidération du pouvoir politique qu'on va assister à des événements qui viendront de la base et qui vont créer un ordre différent. Parce que ça n'est pas possible de continuer comme ça.
Alors j'imagine aussi, Jean-Marie Laclaftine, que la présentation du projet de loi sur la réforme du Code du travail doit vous mettre un peu en colère.
Oui, mais c'est la même chose, franchement. Mais je parlais de reniement, mais là c'est un reniement absolument complet. Je veux dire, ce programme de droite qui favorise systématiquement le patronat dans toutes ces exigences, c'est vraiment le reniement de toutes les promesses qui avaient été faites par ces gens de gauche. Donc on ne peut plus les croire. Quand Valls brandit le 49-3 en disant « je vais passer par-dessus l'Assemblée nationale », vous pouvez penser ce que vous voulez, mais j'imposerai cette loi. C'est incroyable d'en arriver là. C'est un homme de gauche, paraît-il. Donc là, on en arrive à une telle contradiction dans les discours et dans les actes, entre les discours et les actes, que ça ne peut pas durer, il va y avoir quelque chose.
Le monde politique n'a jamais inspiré le romancier ? Apparemment non.
Non, parce que non, moi je fais plutôt dans les sentiments, j'écris des romans d'amour, c'est pas forcément.
Mais pas à l'autre sens, hein, pas du tout. Non. Alors justement, on va revenir à J'ai su et j'ai su que ce trésor était pour moi, votre dernier roman en date. Il faut rappeler donc que c'est un homme qui raconte à la femme aimée qui est dans le coma à l'hôpital, à la fois leur histoire d'amour. Ce qui nous permet au lecteur, nous, de la connaître, cette histoire d'amour, donc, et ensuite l'invention d'autres histoires autour de cette histoire d'amour. Mais le maestro que vous êtes a réussi à imbriquer toutes les histoires les unes dans les autres, ce qui fait qu'à un moment, on ne sait plus, tout au long du récit d'ailleurs, où est la vérité, si j'ose dire, en parlant d'un roman. Et
oui, parce que c'est un roman sur l'invention, sur l'enchantement du récit. C'est-à-dire que
plusieurs histoires qui se déroulent, et vous interrompez certaines histoires en vous adressant à Julia, qui est cette femme Alita, en disant « Oh, j'ai l'impression, en regardant les moniteurs qui montrent la tension, etc., que cette histoire ne te plaît pas parce que je sens que la tension monte, donc je vais la modifier. »
Voilà, il y a tout un jeu chez le narrateur qui invente ces histoires et qui les raconte donc à la femme qu'il aime. Et il joue avec la fiction, et il dit « Bon, je t'ai fait une fin pour cette histoire-là qui est vraiment terrible, je sens que tu n'apprécies pas, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Écoute, et il lui raconte la vraie fin, mais ça n'est pas la vraie fin, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. » Et il y a ce jeu-là qui est une sorte d'hymne à l'invention romanesque. Le fait que, quand on raconte une histoire à un enfant, par exemple, l'enfant, il la connaît déjà, il l'a entendue 100 fois, et il en redemande, et il veut qu'on lui raconte de nouveau l'histoire, et à chaque fois il y trouve un plaisir nouveau, et c'est ce qui m'émerveille moi dans l'invention du récit, dans l'invention romanesque, et j'avais envie de restituer ça dans ce roman à travers une profusion d'histoires qui à chaque fois suscite un émerveillement, une surprise, de la frayeur parfois ou du rire, mais tout ce qu'on peut trouver dans un livre.
La vie quoi.
La vie, la vie. Parce que la littérature, c'est la vie, et la littérature, c'est l'amour. Et c'est, dans le fond, c'est la même chose. Parce que une histoire d'amour, on dit bien une histoire d'amour. Un amour, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est quelque chose qu'on raconte, qu'on se raconte, et qui, au fil des ans, devient une sorte de légende. Hein, tous les couples un peu mythiques qu'on connaît, ce sont des histoires d'amour. Ce sont des légendes qui se sont constituées au fil des ans, et qui sont en partie inventé, mais c'est beau aussi cette invention de l'amour.
Une semaine d'actualité.
Alors partons pour l'Afrique maintenant, Jean-Marie Laclafnine, dans ce magazine qui réussit à parler d'actualité et d'amour, et oui. Et nous allons parler du début du procès d'Ahmad Al-Faqi. C'est Somalien qui est accusé d'avoir participé à la destruction des fameux mausolées de Tombouctou au début de la guerre au Mali. Et c'est la première fois que la Cour pénale internationale se charge d'une affaire liée à la destruction du patrimoine, qui plus est du patrimoine culturel mondial. Florence Maurice, mercredi.
Pour la procureure Fatou Bensouda, Ahmed Al-Faqi El-Mahdi était un maillon clé de l'administration parallèle mise en place par Ansar Dine et Hakmi en avril 2012 afin d'exercer leur emprise sur la population de Tombouctou. Ce dispositif comprenait notamment un tribunal islamique, une police islamique et une brigade des mœurs, une Hezba en arabe, chargée de faire appliquer la charia. C'est à la tête de cette brigade qu'Ahmed Al-Faqi a opéré jusqu'en septembre 2012. Il aurait également été très actif, explique l'accusation, au sein du tribunal islamique, car il faisait figure de spécialiste en religion. C'est d'ailleurs en vertu de cette réputation que cet ancien fonctionnaire de l'éducation nationale a été recruté dès 2011 par Ansar Dine, car cela lui donnait un certain ascendant sur la population. Abou Tourab, comme on le surnommait, était alors en contact régulier avec les chefs d'Ansar Dine et Hakmi. Il aurait donc mis en œuvre le plan commun de destruction des mausolées. C'est lui qui aurait identifié et surveillé les cimetières les plus visités, défini l'ordre d'attaque des édifices et même écrit en personne le sermon sur la destruction de ces mausolées, qui a été lu lors des prêches à Tombouctou le vendredi précédant le déclenchement de l'opération.
Alors, comment est vu ce procès au Mali? C'est ce qu'a voulu savoir David Baché à Bamako, mardi.
Abou Tourab est accusé d'avoir participé à la destruction d'une mosquée et de 9 mausolées à Tombouctou. L'ouverture de son procès est donc une source de satisfaction.
C'est une très bonne nouvelle, parce que casser les mausolées comptent pour nous, au Mali ici. Et je me souviens, ça m'a touché, et ça a touché tous les Maliens. On doit les juger, on doit les punir.
Quand on a constaté qu'on était en train de détruire les mosquées et les mausolées, ça nous a fait très très mal. Et raison pour laquelle il est important qu'il y ait de la justice pour celui qui est présentement à la CPI et pour d'autres aussi qui sont en fuite.
C'est uniquement pour ces destructions qu'Abou Tourab comparaît devant la Cour pénale internationale. Pourtant, ce cadre du groupe djihadiste Ansar Dine, proche d'Hakmi, est soupçonné d'avoir participé à d'autres crimes pendant la période d'occupation du Nord. Certains se disent donc déçus.
C'est pas suffisant, parce que ces gens sont venus avec une vague qui a détruit le Nord Mali, qui ont commis des crimes plus graves, qui ont violé, qui ont déstabilisé le pays, etc., etc. Donc, de maux beaucoup plus graves encore. Donc, il aurait fallu que, pour l'exemplarité, ils soient jugés pour tout cela.
Ils sont pas seulement que des iconoclastes, c'est des assassins, des criminels, ces gens-là. Des viols perpétrés, des amputations. Il y a toutes des actions qui sont restées impunies jusque-là. Ce n'est pas seulement pour la démolition des mausolées, mais il faut aller jusqu'au-delà.
Plusieurs associations maliennes et internationales de défense des droits de l'homme demandent l'élargissement des charges retenues contre Abou Tourab.
Alors Jean-Marie, je suis sûr que ce sujet vous intéresse aussi. Là, on parle de destruction de mausolées, mais il faut aussi rappeler que des bibliothèques avaient aussi été détruites, des manuscrits détruits, parce que contrairement à ce qu'on dit, l'Afrique, c'est pas simplement la tradition orale, il y a des textes évidemment africains.
Bien sûr, mais cet avènement général de la bêtise armée notamment en Afrique, mais en Irak, partout, en Afghanistan, en Libye, et chez nous. C'est absolument effrayant. C'est en même temps le résultat de stratégies occidentales complètement absurdes, chaotiques, quand on voit le résultat de l'invasion de l'Irak, quand on voit que en Afghanistan les talibans ont été créés par les occidentaux, l'État islamique aussi. C'est-à-dire, ce sont des gens que nous avons subventionnés, que nous avons, parce qu'ils étaient censés combattre ce que nous considérions à l'époque comme nos ennemis. Et toutes ces stratégies absurdes de l'Occident, on a l'impression d'un chaos complet dans la tête des occidentaux. Et ce que nous voyons là, c'est aussi le résultat de notre propre incurie.
Alors, ce qu'il faut souligner, Jean-Marie, c'est que vous faites, par exemple, dans ce dernier roman, l'éloge du roman, c'est pour l'amour du roman, c'est ce qui est écrit sous le titre, mais il y a aussi des obscurantistes, on va les appeler comme ça, qui détestent le livre, qui font la guerre au livre aussi.
Bien sûr, oui, mais partout, de sang, dès que les nationalismes et les guerriers prennent le pas sur les pacifistes ou sur les humanistes, les premières choses qu'ils font, c'est brûler les bibliothèques. On l'a vu à Sarajevo, par exemple.
Oui, bien sûr.
On le voit un peu partout. Ils détestent la culture, ils détestent les femmes, ils détestent qu'on éduque les femmes. Toute intelligence est leur ennemi, puisque tout ce qu'ils connaissent, c'est la force.
Sept jours en Afrique.
Alors, nous allons parler d'élections dans trois pays d'Afrique maintenant, Jean-Marie Laclaftine. Partons en Centrafrique d'abord avec, c'est officiel, l'élection du nouveau président du pays, Faustin Archange Touadéra, Pierre Pinto.
À bientôt 59 ans, Faustin Archange Touadéra aime à se présenter comme le visage de la stabilité dans un pays à l'histoire tourmentée. En 2008, François Bozizé prend tout le monde de court lorsqu'il nomme cet universitaire Premier ministre. Recteur de l'université de Bangui, ce professeur de mathématiques jusque-là inconnu restera 5 ans en poste, le record en Centrafrique pour un chef de gouvernement. Son bilan à la primature a d'ailleurs été très largement mis en avant pendant sa campagne. Paiement des salaires des fonctionnaires, des pensions et des bourses, bancarisation, formation d'enseignants et construction d'écoles. Aujourd'hui, comparé aux trois années qui viennent de s'écouler, la période Touadéra rend nombre de Centrafricains nostalgiques. Les rébellions, la prédation, le délitement du tissu économique, les artisans de sa victoire ont su mettre à l'inventaire de Bozizé les mauvais souvenirs de cette époque et provoquer un vaste élan populaire. Aujourd'hui, Faustin Archange Touadéra rassure. Son caractère affable et sa personnalité peuvent masquer sa détermination. Rares étaient par exemple ceux à miser sur lui en août 2015 quand il s'est présenté contre son parti, le KNK, à la présidentielle. Son score de 19% au premier tour a surpris, son triomphe au second également, inattendu par beaucoup, c'est sur ses épaules que pèsent en tout cas les attentes immenses des Centrafricains. Il n'y aura pas d'état de grâce, confiait-on dans son entourage il y a quelques jours.
Partons pour le Bénin maintenant, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, c'est demain. Écoutez un des reportages que notre envoyé spécial Karine Franck nous a envoyé du nord du pays, de Parakou précisément.
Dans le quartier Gounet, on manque de tout. Ni électricité, ni poste de santé, pas assez d'école, pas assez de forage. Moussa tente de vivre de son champ.
Nous qui sommes ici à Gounet, ici, on a 1000 et quelques habitants. On a seulement 2 forages. Ce n'est pas suffisant. Nous, femmes, ils portent des bois pour aller vendre. C'est ça qu'ils font pour trouver l'argent un peu. Ça nous fait mal. Pour payer la fourniture des enfants, là, c'est un problème. Si j'avais de l'argent, je peux faire plus.
Gérard Viao est l'une des voix de la société civile à Parakou.
Il y a 25 ans de démocratie déjà au Bénin. Il y a 25 ans que nous avons eu déjà plusieurs présidents. Et nous sommes encore à ce stade. Seule la tenance ne suffit pas pour la démocratie. Maintenant, il faut l'application des lois. Il faut la réduction considérable de la corruption. Sinon, il n'y a pas de développement dans le pays.
Seydou a toujours vécu dans ce quartier. Pour dimanche, il n'a pas encore fait son choix.
Au temps des campagnes, tous les candidats passent. Ils parlent, ils vont dire on va faire cela, on va faire cela, on va faire cela. Mais après les campagnes, après, s'il devient président, il nous oublie. Je demande le président qui va venir de ne pas faire comme les autres. Ce qu'il a promis là, qu'il fasse tout.
« Dernière étape de notre voyage cette semaine au Sénégal, Jean-Marie Laclaftine, où la campagne électorale pour le référendum du 20 mars prochain sur la modification ou non de la Constitution se poursuit. Nous la suivons presque de semaine en semaine. Écoutez ce reportage de notre correspondant Guillaume Thibault à Dakar, mardi.
Dans les travées du marché, Habib, vendeur de cosmétiques, affiche son soutien à Macky Sall. Pour lui, la réduction du mandat du futur président élu de 7 à 5 ans est essentielle.
Je peux citer l'essentiel que je dis oui, sans les 5 ans.
Mais il y a d'autres propositions.
Oui, il y en a un gogo, mais ce qui reste, ça ne m'intéresse pas.
Babacar, retraité, journal sous le bras, a beau suivre les débats sur sa radio, il n'est pas tout à fait au point pour citer les propositions de la réforme.
Je crois que c'est à 15 points, hein. Je ne suis pas tellement...
Vous trouvez qu'il y a un manque d'informations ?
Je crois qu'il reste beaucoup à faire.
Fatou, 26 ans, étudiante, dresse le même constat.
Peut-être après on va mieux nous expliquer.
Parce qu'il y a des choses sur l'Assemblée nationale, sur le droit des Sénégalais.
C'est vous qui me dites ça ?
Mamadou, également.
Toi, est-ce que tu vas le voter de quelque chose que tu ne connais pas ? Tu ne votes pas.
Monsieur Touré entend les causeries et vient mettre son analyse politique sur la table.
Si on a le oui qui l'emporte, il va gouverner dans de très bonnes conditions. Mais si on refuse, on va aller au chaos.
Il y a enfin ceux qui ne font plus confiance à la classe politique et qui ne voteront pas.
Non, j'aime Macky, mais vraiment, je ne vote pas. Je ne vote pas.
Et ceux qui ne lâchent rien.
Est-ce que vous allez voter le 20 mars ?
Inch'Allah.
Ça veut dire quoi, Inch'Allah ? Oui ou non ?
Inch'Allah.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Bonjour aujourd'hui à Jeanne Chris, une très fidèle auditrice que je salue. Bonjour à Aboukari Omara, je pense que je n'écris pas assez à mon émission préférée. L'émission préférée, c'est nous, écrit-il. Je dis bonjour à mon ami Béchir, étudiant à l'université de Troyes en France. Bonjour également à Abdel Nasser à N'Djamena, à Clémence à Amiens, à Ousmane à Abidjan, à Dorian et à Abdoulaye à Paris.
Une semaine d'actualité.
Et à propos d'écriture, Jean-Marie Laclaftine, il faut préciser que vous êtes donc éditeur chez Gallimard. J'ai commencé l'émission le précisant. Il faut ajouter qu'en France, beaucoup de gens écrivent, semble-t-il. Hein.
Oui.
Vous recevez énormément de manuscrits. Ça, c'est un phénomène qui dure.
Plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Non, c'est vraiment très très important. Les arrivages chez Gallimard et chez les autres éditeurs sont énormes, quotidiens. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, à vrai dire. Mais après, évidemment, il faut faire un tri, il faut sélectionner les livres qu'on a envie de porter vers le public.
Ça, ouais. On peut dire que c'est un métier, vous êtes juge, c'est un métier un peu arbitraire. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes le seul à décider si un manuscrit va pouvoir poursuivre sa route
non,
devenir livre ?
Il y a une décision collégiale qui est celle du comité de lecture. Donc, on discute des manuscrits qui ont été remarqués en comité de lecture. Mais évidemment, si quelqu'un, un des lecteurs, est complètement passionné, enthousiaste, à ce moment-là, c'est lui qui aura la priorité, même si les autres sont un peu plus réservés. On donne toujours la prime à l'enthousiasme. C'est vraiment un métier, c'est pas un métier de jugement du tout. C'est tout à fait, en effet, discutable, arbitraire, mais c'est un métier de passion.
Mmh. Voilà. Alors, parlons de la passion et de votre livre, et j'ai su que ce trésor était pour moi, Jean-Marie. Il y a notamment dans cette histoire qui met donc en scène Julia et l'écrivain Marc Gévaudan, il s'appelle, hein, Marc, oui. Gévaudan. Il y a un autre couple, alors lui qui va pas très bien, le couple Nora Romain, et à quelques jours de la journée de la femme, je souffre pour cette femme, Nora, qui est poursuivie par son mari qui est malade, en fait.
Qui est un fou furieux. Un fou furieux. Alors ça, c'est une des histoires donc du roman, et c'est une histoire qui est écrite sous forme de thriller.
C'est un vrai thriller. Voilà. C'est une femme qui quitte son mari et qui fuit en fait.
Elle essaie de se sauver et de sauver ses enfants en même temps, alors que l'autre, qui est complètement cinglé, lui court après. Et j'ai voulu raconter cette histoire de façon très haletante, avec des surprises, des rebondissements, de grandes frayeurs. Et en fait, toutes ces émotions qu'on ressent quand on lit, par exemple, un roman policier, un roman d'aventure. Et en même temps, c'est une histoire d'amour aussi, parce que cette furie du mari, elle succède à un véritable amour. Enfin, il y a quelque chose de très puissant qui s'est passé entre eux. La plupart des histoires que je raconte, d'ailleurs, sont des histoires de couples qui ont connu des amours puissants.
Et des couples atypiques. Hein. Oui. Louise et Paul, par exemple, décalage d'âge important.
Grande différence d'âge, oui. Et le couple principal aussi, Marc et Julia, sont séparés par presque 30 ans d'écart. Donc c'est un amour un peu étrange et un peu difficile à vivre.
Alors avec un thème pareil, moi qui ai lu quasiment tout ce que vous avez écrit, Jean-Marie, on a un roman, c'est la première fois que je vois ça dans vos livres, très sensuel.
Oui, parce que finalement, ce que j'essaie de rendre, c'est la puissance, y compris dans le domaine de la sensualité, de la phrase, de la langue française, des mots, tels qu'ils peuvent diffuser leur magie.
En tout cas, moi j'ai trouvé le livre formidable, je le conseille à tous nos auditeurs et j'ai su que ce trésor était pour moi. On sent en plus que vous vous êtes amusé en lisant, en écrivant
ça. Oui, parce que la construction est très jubilatoire.
C'est joyeux,
Voilà, j'ai été moi-même emporté par mes histoires.
Et dans ce cas-là, on dit que c'est un roman roboratif, non, par exemple ?
Ah ben j'espère. On en a besoin.
Vous l'avez constaté une nouvelle fois.
Oui.
Merci Jean-Marie Laclaftine. Donc je conseille votre roman publié chez Gallimard et j'ai su donc que ce trésor était pour moi, avec un bandeau rouge qui indique pour l'amour du roman, et c'est effectivement le cas. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Vous savez, celui qui interroge ceux qui pensent le monde. Demain dimanche, nous parlerons de l'esprit de résistance du philosophe Vladimir Jankélévitch avec notre invitée, l'historienne des idées, Françoise Schwab. Demain dimanche, 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Une émission que vous pouvez podcaster, comme la semaine d'actualité d'ailleurs, sur le site RFI.fr. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI. D'ici.